Sauvageon, est-ce que le compte est bon? Car tout porte à croire que les Tchékars ont toute la France contre eux.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Au départ à Benoît, c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais le choix.
Dangerous, dangerous, dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Évasion, 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 effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit ont s'échappé de la prison.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sur Radio Kaléidoscope 97 FM et vous écoutez l'émission Les Murs ont des oreilles. Les Murs ont des oreilles, c'est une émission contre la tôle et puis pour relayer tous les mouvements de lutte contre la tôle et contre le monde qui en a besoin. C'est tous les troisièmes mercredis du mois de 19h à 20h sur Radio Kaléidoscope et c'est rediffusé le lundi d'après à 18h30. C'est l'émission du mercredi 20 mars. Aujourd'hui, de quoi on va parler dans cette émission? Alors, on va parler de différentes choses. On va d'abord parler de la tôle de Bourg-en-Bresse et notamment d'une lettre d'un détenu qui est incarcéré là-bas et qui est sorti et qui nous parle un peu du coup de ses conditions de détention. On va parler aussi d'une personne qui est morte à la prison de la santé à Paris et du coup des réactions qu'il y a autour de ça. On va parler des conditions d'accueil dans les parloirs de Vars. Et puis on va aussi vous donner différentes infos sur du son contre la prison, sur Chloé avec qui on est en contact, et puis sur les suites de l'affaire de l'Abège à Toulouse, et puis des brèves anticarcérales comme d'habitude, et de la musique pendant toute cette émission.
Voilà, alors pour commencer, concernant le centre de détention de Bourg-en-Bresse, donc pour repréciser un peu, ça fait partie des nouvelles prisons donc, qui ont été construites plutôt récemment. C'est un établissement pénitentiaire qui est assez grand parce qu'il comprend à la fois un centre de détention, une maison d'arrêt et un centre de semi-liberté. Donc il y a beaucoup de gens qui sont enfermés là-bas. C'est dans le département de l'Ain. Et donc le témoignage qu'on va vous lire, donc c'est le témoignage qui est sorti, hein, c'est pas le prisonnier malheureusement, c'est un témoignage qui est sorti au début du mois de mars et qui a circulé sur internet et donc c'est comme ça qu'on en a eu connaissance. On peut le trouver notamment sur Rebellion, donc le site d'information de la région lyonnaise. des informations indépendantes, alternatives, machin, truc, de la lutte contre ce qui nous opprime. Ce témoignage, c'est celui donc, d'un prisonnier qui raconte un peu ce qui se passe au centre de détention de Bourg-en-Bresse. Il parle de ce qui lui est arrivé à lui, mais pas uniquement. Il raconte comment les surveillants et l'administration pénitentiaire en général ont bien les moyens de mettre la misère aux personnes qu'ils ont dans le collimateur. Et notamment comment... lui, suite à une projection qui avait eu lieu au moment d'une promenade et que eux, en fait, l'administration pénitentiaire, ils ont pu sanctionner personne suite à ce fait-là. En fait, ils ont choisi de le déclasser, c'est-à-dire qu'ils lui ont interdit l'accès aux ateliers de travail et aux formations. Et donc, le déclassement, c'est une punition de l'administration pénitentiaire. Et que suite à ça, ils lui ont refusé systématiquement ses demandes de permission et de libération conditionnelle. Et il parle... aussi de comment un prisonnier qui était soupçonné d'avoir ramené du cannabis après un parloir et que les matons n'ont pas pu coincer, s'est fait tabasser et jeter au mitard. En gros, il parle un peu de quelle est la misère de l'enfermement là-bas, mais pas uniquement parce que ça concerne la majorité des prisons. Et voilà, on va vous lire ce témoignage.
Les embrouilles qui m'ont fait, c'est suite à un truc qui s'est passé en cours de promenade. C'était un matin, il y avait du monde, on était plusieurs, il y a eu un mouvement, il y a eu des projections.
Alors, les projections, c'est faire passer au-delà des murs d'enceinte des objets à destination des prisonniers. C'est interdit et les personnes qui sont attrapées en lançant des projections de l'extérieur peuvent être poursuivies en justice. Et également, les prisonniers qui sont attrapés en récupérant les projections peuvent également être poursuivis à différents degrés par la paix.
Ils ont cru que c'était moi qui avais récupéré la projection. Ils m'ont amené directement en mitard de force. J'ai dit que c'était pas moi et ils ne voulaient rien savoir. Seulement 3 jours après, ils m'ont fait passer au prétoire.
Alors le prétoire, c'est une commission disciplinaire qui est une espèce de tribunal interne à la prison qui sert à juger les prisonniers pour ce qui est considéré comme des petites affaires.
Et là, t'es devant eux, tu t'expliques, ils regardent les caméras. Et à ce moment-là, ils ont vu que je n'avais rien à voir dans cette histoire. En fait, la personne n'était pas identifiable parce qu'elle s'était dissimulée. Les chefs voulaient que quelqu'un paye sur ce coup-là, et dès que je suis revenue en bâtiment, on m'a dit que j'étais déclassée. J'ai demandé pourquoi, j'ai lu leurs raisons, et c'est pas valable. Ils peuvent pas me déclasser par rapport à un truc qui s'est passé en promenade. Le chef m'a dit, on fait comme on veut. En gros, je te fais payer. Ils ont utilisé ce truc qui était sur le rapport, alors que quand je suis sortie du mitard, j'ai eu une levée de prévention. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien contre moi parce qu'il y avait un vice de forme. Et ils ont dû annuler toute l'histoire. Et après, ils m'ont fait chier par exemple, ils m'ont refusé les permissions de sortie que j'ai demandées, pour des motifs à la con. Ils m'ont dit que ça ne faisait pas 2 mois que j'étais sortie du mitard. Normalement, tu dois attendre 1 mois, mais là, ils m'ont refusé pour ce motif. La fois suivante, 2 mois après...
Alors il faut savoir que même si la permission est refusée, il faut attendre un certain délai, le temps que la prochaine commission se réunisse pour faire une nouvelle demande, ce qui rend toutes ces démarches très fastidieuses et très longues.
Ils me l'ont encore refusé parce qu'ils ont dit que c'était une commission où ils disaient combien de RPS.
Alors RPS, donc c'est selon des savants calculs, chaque détenu bénéficie de remises de peine automatiques. C'est-à-dire qu'un certain nombre de jours par mois sont décomptés systématiquement de la peine prononcée, mais ça peut être supprimé si le prisonnier n'a pas eu le comportement attendu par l'administration pénitentiaire.
J'avais et que je pouvais pas faire une demande de perm en même temps. Alors je me suis renseignée, ça n'a rien à voir. Tous ces papiers, je les ai gardés, même si ça sert à rien. Là, ça fait 6 mois que j'attends pour ma demande de conditionnel, pour rien. Il y a 2 mois de ça, je suis passée devant ma SPIP.
Alors une SPIP, c'est une personne des services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui sont les travailleurs sociaux de la prison, qui, au dire des nombreux prisonniers, ne servent à rien, mais devant lesquels il faut quand même jouer le jeu de la réinsertion pour ne pas se faire mettre des bâtons dans les roues.
Elle m'a dit qu'elle allait me faire passer en commission pour le bracelet. Ça fait 1 an que je suis prêt au niveau des dossiers. J'ai tout ce qu'il faut. J'attends, et puis elle me dit que non, finalement. Elle va me faire passer à la prochaine commission. Et là, ils m'ont refait pareil. Ils repoussent encore et encore. C'est pareil pour plein de gens, ils repoussent tellement qu'à la fin ça sert à rien. C'est un peu compliqué tous ces trucs. Mais en fait, le bracelet, ça vaut le coup s'il te reste une longue peine. Mais s'il te reste seulement quelques mois, le temps qu'ils fassent leur dossier, que tu leur donnes les papiers, etc., ça vaut même plus le coup. Tu sors libéral, bleu, et voilà. Parce que quand t'es dehors avec un bracelet, c'est des contraintes super fortes. Par exemple, faut que t'ailles bosser. Et si t'arrives en retard, ils peuvent te remettre dedans pour ce simple fait. Il y a un tas de trucs super stressants. T'as pas de liberté dans ces conditions. Au moindre truc, faut les appeler pour leur dire qu'il y a ci ou ça, que tu vas être en retard, s'il y a un bouchon ou quoi. C'est la vie, quoi. Mais là, non, ça sonne à la maison. La police vient te chercher et tu finis en prison. Et en fait, ça va vite. Par exemple, moi, j'avais trouvé un patron il y a un an, mais eux, ils nous ont fait poireauter. Bah, au bout d'un moment, ça tient plus. Il n'y a plus de patron, et voilà. Ils ont leur tête, et puis ça tient aussi au juge d'application des peines. Mais bon, en général, c'est la merde. La réinsertion, on la fait tout seul. Moi, j'avais ce qu'il faut pour une conditionnelle, mais je sortirai à fond de peine, et voilà. Là, dernièrement, ils m'ont mis en régime fermé.
Alors, un régime fermé en centre de détention, les cellules sont théoriquement ouvertes en journée, mais dans son art de manier la carotte et le bâton, l'administration pénitentiaire a mis en place des régimes ouverts et fermés, où elle confine des prisonniers, enfermés en cellule toute la journée, selon sa volonté, pour les punir et les isoler. Ceci vient s'ajouter à d'autres punitions comme le confinement, le mitard, l'isolement, etc.
Sous le prétexte que j'avais menacé un surveillant, ils m'ont laissé 3 semaines en régime fermé, et j'ai aussi fait 8 jours de mitard pour cette histoire. Après le mitard, ils m'ont remis en régime fermé. On était à 2 en cellule, et à un moment, ils nous ont dit que le sport avait été supprimé. Franchement, quand on a appris ça, avec mon collègue, on a foutu le bordel. Et ça a eu des résultats. Ils nous ont fait sortir du régime fermé, ils nous ont remis en détention ordinaire. Des fois, quand tu fous le bordel, ils te cabossent, mais des fois ça paye. Ils prennent la température, ils veulent voir si t'es vraiment énervé ou pas. Alors j'ai fini par retourner en détention, mais du coup on voit que ça tient pas la route cette histoire de menace de surveillant. Parce que dans leur logique, si tu as fait ça, ils ne te remettent pas avec le même. Et là, encore tout récemment, il y a eu plusieurs fois des serrures qui ont été bouchées. Entre chaque aile dans les bâtiments, il y a des grilles de séparation avec des serrures. Elles ont été bloquées, elles ne pouvaient plus servir. Nous, on était en promenade et quand on est remonté, les surveillants nous ont bloqués dans des boxes minuscules où on était entassés. Ils ne voulaient pas nous laisser repartir parce qu'il y avait eu ce sabotage des portes. Des gens ont commencé à gueuler, taper dans la porte pour sortir. Et peu de temps après, ils ont pris des personnes et direct, ils les ont amenés en régime fermé. Sinon, il y a aussi des choses à dire par rapport à ce qui se passe ici. Il y a des gros problèmes au niveau des fouilles qu'ils font au moment des parloirs. En fait, ils disent qu'ils arrêtent les fouilles.
Jugées dégradantes, humiliantes ou attentatoires à la dignité humaine, les fouilles intégrales systématiques ont été interdites depuis la loi pénitentiaire de novembre 2009. De fait, elles sont régulièrement pratiquées, soit de manière aléatoire sur quelques prisonniers, histoire de mettre la pression à tout le monde, soit de manière généralisée pour une période de 3 mois reconductible, quand les surveillants trouvent sur un prisonnier un objet illicite selon leur réglementation, après un parloir. Plusieurs prisonniers ont fait des recours en justice à ce sujet, et ces fouilles peuvent être des moments de forte tension entre prisonniers et surveillants.
Mais c'est pas vrai, elles sont de pire en pire. Les fouilles, ils les ont fait vraiment comme ils veulent. Il y a 2 boxes, elles sont 2, ils sont 2. Ils te font passer un par un, à poil, ils te font tourner. Des fois, il y a eu des altercations avec des gens, parfois pour rien. Des gens se font taper, c'est arrivé à plusieurs détenus. C'est arrivé par exemple à un ami à moi, et ça plein de gens l'ont vu. C'était il y a 2 mois environ. Ça se passait au moment de la fouille, donc après le parloir. Ils ont pensé qu'il y avait quelque chose, lui disait qu'il n'y avait rien, donc ils ont appelé leurs collègues, leur renfort là, comme ils font tout le temps. Et là, ils ont voulu mettre leurs mains là où ils n'ont pas à le faire. Et c'est parti en cacahuète. Ils ont tapé une alarme et ils sont venus à 15, 20, ça va vite. Après, ils sont censés faire une fouille avec un brigadier, un chef, et après, ils l'ont monté au mitard pour le fouiller là-bas. Et là, ils ont vu qu'ils n'avaient rien. Ils l'ont tapé, tapé et tapé, et ils l'ont laissé 10 jours là-bas. Il faut préciser qu'au mitard, il n'y a pas de chauffage, et que quand il est sorti, il avait encore des traces de coups. Le médecin est passé vite fait, mais mon pote ne voulait pas le voir, et lui n'a pas insisté. À la fin, il n'y a rien eu, pas de suite, rien. Après, c'est tout le temps pareil. Les surveillants profitent de leur pouvoir. Par exemple, maintenant, il y a une nouvelle loi qui dit que dans les cellules de mitard, il y a un allume-cigare pour qu'on ait du feu. Ben, ils nous mettent dans une cellule où il n'y en a pas, alors qu'à côté, il y en a une dans laquelle ils pourraient nous mettre. Mais non. Mon pote est sorti du mitard. Il continue à croiser les surveillants qui lui ont cassé la tête. Ils ne se parlent pas trop, mais ça va pas plus loin. En fait, ils savent aussi qu'ils ont fait une petite boulette. Et ça se passe souvent comme ça. Le mitard est en haut, il n'y a pas de caméra, c'est tranquille pour eux. Quand ça s'est passé, il y avait des gens autour qui l'ont vu, mais qui n'ont rien fait. Et même lui, il lui reste 6 mois à faire. Il ne va pas faire de vagues autour de ça. En fait, il y a plein de gens qui sont dans cette situation ou qui ont vécu un truc comme ça. Je connais quelqu'un d'autre qui a porté plainte, pareil, pour une histoire de fouille suite à un parloir. Ils ont pensé qu'il y avait un truc. Ils ont fait une sale fouille. Mais il n'y a eu aucune suite à cette plainte. Après, il y a aussi des histoires au niveau du sport. C'est les mêmes moniteurs de sport qui se partagent entre la maison d'arrêt et le centre de rétention. Ils changent les horaires super souvent. Ça fait que plein de fois, on n'a pas de sport. Ça paraît tout con, mais quand t'as rien à foutre de la journée, ce moment-là, tu l'attends vraiment. Aussi ici, il y a une surveillante qui est mauvaise comme tout. Elle a vraiment fait des problèmes à plein de détenus, une quarantaine. Plein de gens ont fait des courriers à la direction en relatant sa manière de se comporter, pour qu'elle parte. Mais ils s'en foutent, elle est là, et voilà. Il y a un climat assez raciste des surveillants qui ont leur tête. Certains qui jouent beaucoup le rapport de force. Au début, quand on connaît pas la prison, on essaie de pas faire trop de bruit. Mais en fait, plus on est gentil, plus ils nous mettent au mitard. Ils veulent qu'on marche comme des moutons. Par contre, plus on leur fait des crises, et plus ils nous laissent tranquilles. En gros, vaut mieux qu'ils nous craignent.
Voilà donc pour ce témoignage d'un détenu de la prison de Bourg-en-Bresse. Et du coup, c'est un témoignage qui s'ajoute à d'autres témoignages qu'on avait déjà relayés dans cette émission sur comment ça se passe dans cette tôle. Il n'y a pas longtemps, par exemple, on avait relayé un témoignage de Laurent, donc, qui était incarcéré là-bas en janvier, et qui racontait, par exemple, que la promenade là-bas, c'était un endroit de 30 mètres carrés avec des murs de 4 mètres de haut, avec des grilles et des barreaux au-dessus de la tête, où du coup, il n'y avait aucune vue. On ne voyait pas le soleil de septembre à juillet.
Lui, il parlait du quartier d'isolement encore en plus.
Ouais, lui, ça, du coup, lui, il était en isolement. Donc lui, il était en isolement complet à ce moment-là. Donc il n'avait pas le droit, par exemple, d'accéder à la salle d'activité. Alors qu'il disait que c'était plutôt là que les autres détenus se retrouvaient. Enfin, dans les moments où ils pouvaient se retrouver, quoi. Et puis lui, il racontait aussi qu'il a eu un problème avec un brigadier qui, un jour, a refusé de le laisser rentrer de promenade. Donc la promenade, normalement, c'était de 14h à 16h. Et à 16h, le brigadier... soi-disant n'était pas là pour le faire rentrer, du coup il a attendu dehors dans le froid, donc c'était en mois de janvier, il faisait nuit, jusqu'à 18h où le brigadier a finalement bien voulu venir le chercher avec deux autres matons qui l'ont provoqué à fond, qui ont en gros cherché la bagarre quoi, pour pouvoir trouver une excuse pour le taper et pour le sanctionner. Que du coup Laurent il n'était pas rentré dans ce jeu à ce moment-là, il avait fait une lettre à la direction pour se plaindre. La seule réponse qu'il avait eue, c'était de se faire fouiller sa cellule. Quelques jours après ça, il était de retour du tribunal et il s'est repris la tête avec le même maton pour une histoire de ceinture, que le maton disait qu'il n'avait pas la ceinture avec lui alors que ça faisait des mois qu'il avait cette ceinture sur lui. Et du coup, ils se sont encore pris la tête à ce moment-là et du coup, il s'est pris 12 jours de cachot. Enfin voilà, du coup, plein d'histoires dont on avait entendu parler. Aussi d'autres gens qui nous disaient qu'effectivement, il y avait pas mal de racisme à la tôle de Bourg-en-Bresse, notamment de la part des matons. Et puis, une autre histoire aussi dont on a parlé il n'y a pas longtemps.
Ouais, en fait, il y a une info qui est sortie à l'automne dernier. Il y a un prisonnier qui est décédé au centre de détention de Bourg-en-Bresse. Et les infos ont circulé au dehors, et notamment sa compagne a raconté un peu comment ça s'était passé. Et ce qu'on sait, c'est qu'en fait, c'est un prisonnier qui s'est plaint de douleurs au niveau du cœur dans la journée devant d'autres détenus en fait qui ont alerté les surveillants pour qu'ils puissent voir un médecin qui soit pris en charge au niveau de la santé. Et en fait, ça a été pris vraiment à la légère. Les soignants lui ont donné du Doliprane et dans la nuit, en fait, son état a empiré. il se plaignait, son co-détenu a alerté aussi par rapport à son état, et en fait les surveillants ont jugé que c'était pas grave et que c'était pas nécessaire d'appeler les secours. En fait, il a fait un arrêt cardiaque, et quand quand il y a eu une intervention, c'était trop tard parce qu'il était décédé. Donc sa compagne, elle a raconté un peu les infos qu'elle a eues à ce sujet-là, comment elle a été reçue et traitée par l'administration pénitentiaire, comment on lui a annoncé la nouvelle, et aussi comment, comme par hasard, dans les délais qu'on lui a imposés pour pouvoir voir le corps de son compagnon, les choses ont traîné, et puis qu'au final, il n'y a pas eu d'autopsie, ce qui était une manière assez pratique de laisser planer un flou sur les raisons réelles de sa mort. C'est des faits super graves, en fait. Là, il y a une procédure en justice qui est en cours à ce sujet-là. On sait que c'est toujours des choses qui sont très longues et que l'administration pénitentiaire essaye par tous les moyens d'étouffer ce genre d'affaires. Qui en fait est quand même vraiment, enfin c'est vraiment très fréquent en fait qu'il se passe des choses comme ça, et que du coup on a envie de favoriser au maximum le fait que des informations sortent au sujet de ce qui se passe en prison, que c'est un début en fait pour lutter contre l'isolement et puis créer de la solidarité au dehors. Voilà, ça nous paraît super important, donc on a envie d'encourager le fait de prendre contact avec nous ou avec d'autres pour parler de ce qui se passe à l'intérieur et que ça puisse changer les choses. Bon, en tout cas, on continuera à donner des informations au sujet de ce centre de détention là et d'autres quand on en aura. Et on souhaite courage aux prisonniers à l'intérieur qui ne se laissent pas faire par les matons. Et on va écouter un petit peu de musique maintenant.